Alors, je suis Marie-Gore et je suis attachée territoriale de conservation au musée du Louvre-Lens. J'ai travaillé sur l'exposition Paysages, fenêtres sur la nature aux côtés de Vincent Pomarède et de Marie Lavandier.
Voilà donc une exposition qui est riche en thématiques dans les paysages. Il y a des séries, on va dire, qui ont un sens à être présentées autour de thèmes particuliers, peut-être d'impressions aussi à donner au public.
Cette exposition, elle a été réfléchie pour aborder le thème du paysage d'une manière peu classique, poétique, très sensible, immersive. Et pour ce faire, on raconte en quelque sorte une histoire, et c'est l'histoire de la fabrication d'un paysage. On s'intéresse à une période qui va environ du 15e au 20e siècle, parce que à l'orée de cette période-là, il se passe des choses dans le monde artistique. On parle de renaissance, on parle d'humanisme, et les artistes qui s'intéressent au paysage vont s'identifier au créateur avec un grand C, parce que quand il peigne un paysage, finalement, il peigne un nouveau monde, il recrée le monde. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir comment ça se fait, ça. Comment est-ce qu'on fabrique un monde quand on est un peintre, par exemple. Alors, on l'a présenté en 4 étapes très concrètes. Dans un premier temps, on s'intéresse à des motifs. On va aller regarder les arbres, on va aller regarder les rochers, on va regarder le ciel et l'eau. Et puis, on va aller dans la nature avec, pourquoi pas, sa feuille de papier, avec sa pierre noire. Et on va dessiner ce que l'on voit en s'approchant au plus près d'un arbre, d'un rocher. Une fois que l'on a appris à maîtriser ces motifs, dans un second temps, et c'est la seconde étape dans l'exposition, on va élargir un peu le regard et on va travailler sur, dans une peinture qui est finalement un plan en 2 dimensions, la manière de venir faire émerger la 3e dimension, donc l'espace. Disposer les motifs de manière à donner l'illusion de l'espace. C'est là qu'interviennent des questions comme la perspective, qu'elle soit mathématique, qu'elle soit atmosphérique, avec les couleurs du ciel, etc. Dans un troisième temps, une fois que tout cela est installé, on va venir répandre la lumière et faire démarrer le temps. Et pour faire démarrer le temps dans une peinture qui est un objet figé, il faut user de stratagèmes, il faut travailler la couleur, on peut travailler par série avec des œuvres qui présentent, pourquoi pas, le lever du soleil et le coucher du soleil. Voilà, donc tout un tas de petits stratagèmes pour les artistes qui vont les amener à éveiller le temps au sein de la peinture. Et puis, dans un quatrième temps, lorsque tout ce décor est en place, ils vont venir raconter des histoires avec ces paysages. Parfois en ajoutant des êtres humains, des dieux, parfois en racontant l'histoire elle-même par le paysage, un paysage qui va devenir expressif. L'exposition se termine sur cette idée d'un paysage-décor et la conclusion ouvre sur d'autres dimensions du paysage, peut-être des dimensions qu'on n'attendait pas dans une exposition sur le paysage, un paysage qui flirte avec l'abstraction, qui va user de la couleur et de la forme d'une manière un peu fantaisiste, pourquoi pas, mais aussi un paysage qui va être rêvé, qui va être fantastique, qui va être fantasmagorique, avec des œuvres comme par exemple une œuvre de George Sand, un paysage imaginaire, ou bien encore une œuvre de la peintresse américaine Joan Mitchell, ou encore un surréaliste Yves Tanguy.
Un grand voyage donc dans lequel on a des moments de tension, des moments dramatiques, des moments peut-être de passion aussi, mais je vois bien des cataclysmes, des orages, des tempêtes en mer, etc., où là on ressent aussi l'impuissance face aux éléments. Après d'autres moments où on reconstitue des tableaux, des scènes de guerre, etc., là aussi on est dans une autre tension. Et puis on parlera peut-être après de gens plus apaisés, qui ont un rapport plus constant et plus long avec la nature, qui sont les Asiatiques.
Alors, l'histoire du paysage, en fait, c'est une histoire au pluriel. Ce sont des histoires qui se déroulent en même temps, comme vous l'avez dit à l'instant, dans plusieurs parties du globe. Et même simultanément, en Europe, vous allez pouvoir voir des œuvres picturales qui représentent des paysages de manière assez variée. Par exemple, on va avoir l'art de la Veduta, qui est l'art de représenter le paysage d'une manière assez réaliste, entre guillemets, en étant au plus précis de ce que l'artiste voit. Et parallèlement, vous allez aussi avoir des œuvres qui sont des œuvres expressives, où on tente de créer l'émotion chez le regardeur, voire parfois l'artiste va également utiliser le paysage pour traduire ses propres émotions. Je vais penser par exemple à un petit dessin de Victor Hugo dans l'exposition où on voit une énorme vague sur laquelle un pauvre petit navire tente de surnager, et il a intitulé cette œuvre « Ma destinée ». Donc le paysage exprime complètement son état d'âme. À l'inverse, on a une œuvre vénitienne antérieure d'un artiste qui s'appelle Canaletto, qui est vénitien au XVIIIe siècle, et là on est dans une précision qui est quasi photographique avec l'architecture des palazzi vénitiens absolument décrite dans tous ses détails, et en même temps au-dessus un ciel avec des nuages qui sont incroyables, à la fois de réalisme, mais en même temps, le maniement de la couleur est fascinant.
On vit une époque de tension aussi, mais avec l'idée parallèlement, alors je ne sais pas comment on peut fusionner, confondre, mettre en perspective les deux, d'une sorte de retour à la nature et peut-être à son charme et à sa préservation tout au moins.
Oui et non, parce qu'il y a une étude qui est parue du CNRS récemment, enfin qui a été publiée par le CNRS notamment, qui dit qu'on vit de plus en plus loin de la nature, et visiblement en Chine. En France, la moyenne, c'est qu'on est à peu près 16 km de la zone naturelle la plus proche. Donc vous vous rendez compte, on en est physiquement très éloigné de la nature. Mais en fait, nous sommes des morceaux de nature. D'ailleurs, on sait très bien qu'on est habité par une multitude de bactéries. Donc si ce n'est pas ça la nature, je ne sais pas ce que c'est. Donc il y a une espèce de tension actuellement, en fait, entre le fait que la plupart d'entre nous vit assez loin de la nature et le désir, notamment à la suite de l'épidémie de Covid, de se rapprocher de cette nature. Parce qu'on a découvert que quand on était enfermé entre quatre murs, juste voir la lumière du soleil par la fenêtre, parfois, c'est une source de joie énorme. Donc on a... Par cette raréfaction du rapport à la nature et aux éléments naturels, paradoxalement, on a redécouvert à quel point ils nous étaient chers et précieux. Et dans l'exposition, justement, c'est ce rapport que les artistes entretiennent avec la nature qui est abordé. On voit la fascination qu'ils éprouvent pour les éléments naturels, pour la lumière du jour, pour le feuillage des arbres qui s'agitent dans le soleil, pour l'eau qui miroite. Voilà, toutes ces choses-là qui peuvent sembler infimes et qui, en même temps, font partie des grandes joies de l'existence. Contempler la beauté du monde dans lequel on vit.
Et donc pour le public qui vient en région, Hauts-de-France, hein, au Louvre-Lens, sans doute en passant quelques jours, constatera-t-il que les ciels sont parfois magnifiques, très changeants. Et l'idée, par exemple, qu'au bout de 10 minutes, la lumière peut vraiment tout changer d'un tableau, d'un paysage, d'une impression première, c'est quand même quelque chose qu'on peut vivre aussi en parallèle de l'exposition.
Exactement. Et la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles cette exposition sur le paysage a lieu au Louvre-Lens, c'est justement parce que le musée est un musée paysage. Lorsque les architectes qui ont construit ce musée, qui appartiennent à un cabinet qui s'appelle le cabinet Sanaa, cabinet japonais, ont découvert le site sur lequel le musée a été construit, une des choses qui les a le plus fascinées, c'est la beauté de la lumière sur ce site et effectivement sa nature perpétuellement changeante. Donc, il y a cette raison-là, cette raison on est dans un parc de plus de 22 hectares qui a été dessiné par la paysagiste Catherine Mosbach. Le musée est construit avec des façades vitrées ou bien en aluminium qui reflètent le paysage, qui se fondent dans le paysage. Nous avons une galerie du temps dans laquelle sont présentées des œuvres du Louvre, mais qui sont présentées comme un paysage, comme une forêt d'œuvres réfléchies par les parois en aluminium. La dimension du paysage est omniprésente au Louvre-Lens. C'est donc très naturel de faire cette exposition. Et effectivement, dans l'exposition, on voit à quel point cette nature changeante des ciels a fasciné les artistes et à quel point, à la fois, ils ont essayé de la figer, de la piéger quelque part, mais aussi de l'utiliser pour représenter des états d'âme changeants. Tout comme le monde change en permanence, nous, ce qui se passe dans nos têtes, ça change aussi en permanence. Et la perception des artistes change également.
Alors, si je pouvais donner un conseil à un visiteur, c'est de s'arrêter devant un tableau qui représente quelque chose qui pouvait paraître à l'époque incroyable pour les gens qui voyaient cette peinture, c'est une aurore boréale.
Ah oui, ce tableau, il est extraordinaire. C'est un tableau d'un artiste qui s'appelle François-Auguste Biard, qui était né à Lyon, qui a vécu au XIXe siècle, qui est un aventurier, c'est-à-dire qu'il a voyagé au Brésil, en Amérique du Nord, il a voyagé dans toute l'Europe, et puis il s'est joint également à une expédition scientifique qui visait à se rendre dans le Grand Nord. Il a donc accompagné cette expédition. C'est vraiment une histoire rocambolesque parce qu'il est parti avec sa compagne de l'époque, Léonie Daunet, qui a dû se déguiser en homme pour participer à cette expédition. Sur place, il y a bien sûr tout le travail scientifique qui s'est déroulé pendant 15 jours au Spitzberg, avec des prélevés qui sont très intéressants aujourd'hui, parce que étudier ces prélevés anciens permet de se rendre compte du réchauffement climatique notamment. Donc ce travail scientifique, il a encore aujourd'hui un grand intérêt. Mais Biard, lui, a travaillé, a rapporté des esquisses, et lorsqu'il est revenu, il a fait des peintures à l'huile d'après tous ces relevés, qui cette fois-ci n'étaient pas scientifiques à proprement parler, mais artistiques. Et il a fait connaître à ses contemporains ce que c'était que le Grand Nord. Et on sait par des témoignages journalistiques notamment que les gens étaient assez incrédules. Ils avaient l'impression que Biard faisait n'importe quoi, parce que les couleurs qu'il découvrait sur ses toiles, ils ne les trouvaient pas réalistes. C'est dire à quel point l'appréhension d'un paysage, c'est aussi quelque chose qui se passe dans la tête. Et c'était important pour nous de montrer qu'effectivement, il existe des paysages réels, des paysages dans lesquels on peut se promener, des paysages qui ont une odeur, qui ont une matière, qui ont une lumière. Mais il y a aussi toute la dimension du paysage qui est mentale, ces paysages qui sont dans nos souvenirs, ces paysages que l'on se redessine dans la tête et ces paysages que les artistes peignent au travers du filtre de leur culture, de la société dans laquelle ils vivent et de leur imagination.
Voilà un dernier mot sur alors à la fois des œuvres d'artistes japonais et d'artistes chinois. On sent quand même bien sûr une filiation. Il y a aussi cette notion de respect de la nature et de l'humilité face à la nature qu'on ressent bien dans ces œuvres qui sont présentées.
Oui, c'est un point commun qu'on va trouver entre certaines œuvres occidentales que parfois on rattache à l'idée du sublime, donc l'idée notamment très ancienne, à la fois que l'être humain est tout petit face à une nature aux forces qui le dépassent totalement et au rythme qui le dépasse totalement. Et cette idée-là qui est présente, qui disparaît, qui réapparaît régulièrement dans notre culture, elle est aussi bien sûr présente dans ces grandes civilisations paysagères que sont les civilisations chinoise et japonaise. Et nous avons souhaité leur rendre hommage, d'autant plus qu'il y a bien sûr eu des contacts entre les artistes extrême-orientaux comme les Japonais, comme les Chinois, et les artistes occidentaux. Parfois des rapports qui étaient des rapports pas nécessairement pacifiés, hein, parfois des rapports d'incompréhension. On a par exemple un exemple d'un théoricien et d'un grand artiste de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui s'appelait Joachim von Sandrart, qui était un Allemand, qui a écrit un ouvrage théorique qui s'appelle « Deutsche Akademie », donc c'est l'Académie allemande. Alors il parle d'artistes allemands, mais pas que. Et c'est a priori un des premiers ouvrages occidentaux, artistiques, esthétique en tout cas, où on va évoquer la peinture chinoise. Et alors il y va pas avec le dos de la cuillère, il a pas tout compris, parce que d'une part il dit bon, c'est une civilisation très intelligente, mais alors en peinture quand même ils sont pas très doués. D'abord ils maîtrisent pas la peinture à l'huile, et ensuite ils maîtrisent pas la perspective. Donc on voit bien que son appréhension de la peinture chinoise, et donc on peut imaginer ce que ça donne du point de vue du paysage, puisqu'il dit il ne maîtrise pas la perspective, c'est l'incompréhension qui domine. Mais ça n'a pas toujours été le cas. On sait qu'il y a eu à l'inverse beaucoup plus de compréhension, et aujourd'hui, on dispose d'une connaissance de textes théoriques qui nous permettent aussi de comprendre ces œuvres chinoises. Par exemple, un précis écrit par un moine dont le surnom était Citrouille amère, Shitao, qui nous permet justement d'entrer dans sa tête et de comprendre comment lui voyait la peinture de paysage. Et dans l'exposition, nous avons la chance d'avoir deux encres d'artistes chinois qui nous ont été prêtées par le musée Cernouski. Deux artistes qui s'appellent Tian Du et l'autre Fang Kong, avec des paysages qui sont très intéressants parce qu'ils manient l'art de la réserve. Donc, on n'est non pas face à des œuvres peintes à l'huile qui rendent le paysage incorruptible et qui le figent, mais au contraire des œuvres qui vont capter quelque chose de très éphémère dans le paysage et puis qui vont pousser le regardeur à s'investir dans ce qu'il voit, puisque tout n'est pas peint. Il y a un art de l'ellipse, donc de la réserve. Il y a des parties du papier qui sont laissées blanches. Et notre esprit, lorsqu'il regarde la feuille, imagine ce qui se trouve sur ces plages blanches, de la neige, de la brume. Donc il y a un vrai jeu complice avec ces œuvres, qui par ailleurs sont accompagnées de poèmes calligraphiques. Donc la démarche de ces artistes chinois, elle est de jouer sur la complémentarité entre un poème calligraphique extrêmement précis, et sensible, et une peinture qui est très abstraite. Et c'est le rapport entre les deux qui fait vraiment émerger cette peinture de paysage.
Voilà, et puis pour ceux qui veulent comprendre aussi entre la nature qui pourrait rassembler davantage les hommes et leur incompréhension, on pourrait proposer de lire La joueuse de Go, par exemple.
Alors, je ne l'ai pas lu, mais je vous crois sur parole et je note pour plus tard.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.